Sir, do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman?
Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. So I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
As many of you know, before I was elected vice president, I was an elected United States senator. Before that, I was an elected attorney general, and before that, an elected district attorney. And before that, I was a courtroom prosecutor. So I took on, in these roles, perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Scammers who broke the rules for personal gain. So Arizona, hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. They were signing a promissory note. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. We refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose, yeah, yeah. I'm a march on the regular, pretty white, black, blue. Lord, forgive me, I've been running, running blind and true. Trying to rain on this bitter love, till the deep I'm new. Ooh, I'm telling these tears gon' fall away, oh. May the last one burn into flame.
Après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, Donald Trump ne passe pas une journée sans attaquer frontalement sa nouvelle rivale, Kamala Harris, usant de divers surnoms insultants pour la qualifier. Kamala Harris est-elle le cauchemar de Donald Trump? La candidature de Kamala Harris rebat-elle les cartes de l'élection? Qui sont ces séduits par Donald Trump? Kamala Harris pourrait-elle faire trébucher Donald Trump? Présidentielle américaine 2024, chaque dimanche, reportage, analyse avec les correspondants de France 24 et RFI sur CUT 89,5 FM, la radio au cœur des débats politiques, linguistiques et culturels. Ciné Franco en partenariat avec Popourichaud et CUTFM, vous invite à participer en grand nombre à la 27e édition du Festival Grand Public du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton. Marceline, fondatrice de Ciné Franco, et son équipe nous promettent des chefs-d'œuvre du cinéma québécois, français et international. Du 1er au 10 novembre, tirage sort des billets gratuits pour les membres de la radio. Pour y participer, c'est très simple, écrivez-nous à popourri@cut.fm. Alors on se donne rendez-vous du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton, Métro Collège. D'ici là, je vous invite à découvrir les films à l'affiche sur cinéfranco.com ou popourrishow.com. Le KEPCA et CUT-FM présentent « Le créole est notre langue, protégeons-le ». Depuis 2001, pour les 19 millions de personnes créolophones à travers le monde, octobre est le mois des célébrations publiques en l'honneur des langues et cultures créoles. Pour sa 23e édition, le KEPCA et ses partenaires, artistes, conteurs, auteurs, mettent en lumière le patrimoine créole à travers plusieurs activités favorisant la compréhension entre les peuples. Le créole est notre langue, protégeons-le. À travers une myriade d'activités, d'événements et de concerts captivants, le KEPCA et le mois créole à Montréal nous invitent à plonger dans un voyage inoubliable au cœur de la créolité. Découvrez la belle programmation du KEPCA en visitant moisducréole.ca. Et à tous les passionnés des cultures et langues créoles, Popourri Show et CUT-FM vous donnent rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h. Parmi les thématiques, sommes-nous tous devenus créoles? Un décryptage à travers la parole d'historiens et de sociologues contemporains, d'anthropologues et d'artistes pour mettre en perspective les notions de créolité et de créolisation. Le créole est notre langue, protégeons-le avec le KEPCA sur moisducréole.ca. Sommes-nous tous devenus créoles? Sur CUT 89,5 FM en partenariat avec RFI France 24, TV5 Monde. Découvrez la belle programmation du mois du créole sur popourrishow.com. Le créole est notre langue, protégeons-le. Où que vous soyez dans le monde, toute l'équipe de la radio vous souhaite bon mois créole.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter. Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élans, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
La langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les modus et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes des autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine phare de la francophonie, qui célèbre sa 38e saison sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. vos commandants de bord, DJ Devera et Eric Tader. Pour nous écouter où que vous soyez dans le monde, www.popourichaud.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques éducatives, sociales et langagières des francophonies en Ontario, au Canada et dans le monde, le CREFO, Université de Toronto. Plongez au cœur des francophonies d'ici et d'ailleurs grâce à ces podcasts « Quoi de neuf à les cafés du CREFO » et les conférences gratuites en ligne ou en personne. Pour rester à l'affût des activités du CREFO, cliquez crefo.ca ou popourichaud.com. Le CREFO est situé au 252 rue Bloor-Ouest, métro Saint-George. Notre partenaire, Sophie Franc, organisme communautaire sans but lucratif, créé par des femmes immigrantes francophones vivant dans la région du Niagara et Welland, vous invite à participer à ses projets dédiés aux immigrants francophones tout au long de l'année. Sophie Franc, à retrouver sur sophiefranc.org. Et notre amie de toujours, Marceline, fondatrice de Ciné Franco, nous réserve de vrais petits bijoux lors de son festival annuel grand public, qui aura lieu du 1er au 17 novembre au cinéma Carlton, 20 rue Carlton, métro Collège. La thématique choisie de cette année, la singularité. Cette 27e édition nous offre plusieurs longs et courts-métrages français, québécois, des films acclamés à Cannes et dans d'autres festivals. Fiction, comédie, drame et des sujets d'actualité tels que le déracinement, les réfugiés, l'amour et des questions identitaires. Émotion, rire et de belles rencontres au rendez-vous. Et à surveiller des projections de films de cinéastes indépendants franco-canadiens du FRIC. FRIC, qui veut dire le Front des réalisateurs indépendants du Canada. Vous serez enchantés par la beauté de leurs œuvres. Entre-temps, chaque dimanche, je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, à découvrir en exclusivité tout au long du mois d'octobre sur CUT 89,5 FM, des films à l'affiche du prochain festival de Ciné Franco. 10 paires de billets disponibles pour les membres de Popourichaud. Je dis bien, 10 paires de billets disponibles pour les membres de Popourichaud et CUT FM. Le Festival Torontois Ciné Franco, en partenariat avec CUT 89,5 FM et Popourichaud, revient du 1er au 10 novembre au Cinéma Carlton, à découvrir sur cinéfranco.com et popourichaud.com. Et la maison d'édition Prise de Parole nous présente ses nouveautés littéraires, des nouveaux chefs-d'œuvre qui nous font voyager dans l'univers des écrivains francophones, queer et autochtones, à découvrir sur notre site ou sur prisedeparole.ca. Popourichaud, liberté, égalité, actualité. Bonjour Toronto, ici Paris. Ici Eric Kader qui vous présente une édition spéciale tout au long du mois d'octobre. Dans la première heure, nous ferons escale au cinéma Carlton 20 rue Collège qui accueillera la 27e édition de Ciné Franco, festival grand public du 1er au 10 novembre. À ne pas manquer, tous les détails sur notre site web. Et nous avons plusieurs paires de billets pour les amis membres de la radio. Et dans la deuxième heure, un plongeon dans les cultures et les langues créoles avec la 23e édition du festival Le Mois Créole à Montréal. La fête a lancé le 1er octobre par le CAPCA se poursuit avec un florilège d'activités haut en couleur. Et ce dimanche 13 octobre, ne manquez pas la Foire du Livre au Musée des Mémoires montréalaises. Une belle occasion pour découvrir des auteurs et des livres inspirants venus du Québec, de la Caraïbe et de l'océan Indien. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de littérature qui souhaitent plonger dans la richesse de nos cultures créoles à travers les mots. Et le 18 octobre, nos partenaires au CAPCA vous invitent à participer en grand nombre à un atelier sur l'écriture de poésie créole avec des experts. Une occasion unique de découvrir et pratiquer l'art du poème créole. Le 17 octobre, projection du film sur Jean-Jacques Dessalines, suivi d'un débat sur son héritage, entrée gratuite. Retrouvez tous les détails et informations additionnelles sur la page Facebook / Voix Créole Montréal ou encore moiducréole.ca ou tout simplement popourusso.com. Le créole est notre langue, protégeons-le.
Parlez-moi de Kerry James, Charles.
Eh ben, je voudrais d'abord, disons que la chanson française a à l'heure actuelle un avantage fantastique, c'est que les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue. Et je dois... Alors on peut les applaudir. On pense toujours que cette jeunesse ne connaît pas la chanson. Au contraire, elle la connaît très très bien, mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y a une floraison d'auteurs et de compositeurs et d'interprètes, rappeurs ou slameurs qui sont formidables aujourd'hui. Et je dois dire que le leader de tout cela, celui qui émerge en tête, c'est Kerry James. Et vous allez l'entendre, écoutez surtout attentivement les paroles, vous allez voir comment c'est bien écrit, comment c'est beau et comment c'est français.
Et Charles va le rejoindre à la fin pour terminer avec lui ce texte, car c'est un texte à l'ombre du showbiz. Charles Aznavour a raison, écoutez bien le texte. Kerry James.
Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'art est universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois, l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Je rappe à la force des mots, sans artifice, car c'est à force de mots que je suis artiste. Je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités, ils sont majoritaires. Mais comme tout art, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps, faisant des corps des décors, mettant les cœurs en accord. À l'ombre du show business, à l'ombre du show business, mon art vient de la rue, je suis poète. Dans le cercle des disparus, mon art est engagé, mon art est intense, mon art a une opinion. J'écris des poésies de larmes, des pluies de pleurs, ils veulent tuer mon art, mais mes œuvres demeurent à l'ombre du show business. Mes vers sont des éclats qui rayonnent sur les cœurs, c'est pas grave s'ils m'écartent. J'ai grandi sur du verglas où chaque chute peut être fatale, dans le palais des pales, dans le dialogue du métal. La France nous a mis de côté, je l'ai écrit ce qu'on ressent quand on est rejeté. Sans pudeur, je l'ai décrit, t'es fou. Ça fait 20 ans qu'on chante la banlieue, 20 ans qu'ils décrivent nos écrits en haut lieu, 20 ans qu'ils étouffent nos cris, qui transcrivent les crispations des cœurs en crise et les conditions de vie de nos frères en prison. 20 ans qu'on ouvre des fenêtres sur des avenirs sans horizon, 20 ans qu'on pose nos mains sur des plaies ouvertes qui saignent le rejet, car l'égalité des chances n'est qu'un projet. À l'ombre du show business, pourtant j'aime la langue de Molière, je suis à fleur de mots. À l'ombre du show business, tu sais, il y a une âme derrière ma couleur de peau. À l'ombre du show business,
à l'ombre du show business, il faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être même plus facile. Les portes sont fermées, verrouillées, mais elles s'ouvrent les portes à l'ombre du show business. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. à l'ombre du show business. Le soleil peut se lever, mon frère, à l'ombre du show business.
Thierry James, accompagné par Fred Manoukian. Bonne chance avec Charles.
C'est beau, je vous l'avais dit que c'est beau.
Tu sais que Charles, à ses débuts aussi, il aurait pu écrire ça. Hein, la route a été longue. Il faut y croire.
Mais quand on dit qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne connaît pas l'orthographe et qui n'apprend pas bien la langue, on est fiers. Et on peut dire merci à ceux qui pratiquent notre langue de cette manière.
Festival Solidaise, bientôt la Cigale, bientôt le Zénith à la rentrée. Merci d'avoir fait tes grands débuts avec Charles ce soir à Avignon.
Juste un petit mot, ce que vous avez fait pour moi, je vous remercie pour avoir participé à mon album. Et monsieur Drucker, pour m'avoir reçu, c'est quelque chose de très important qui va au-delà de la musique et je voulais le souligner. Merci.
Merci beaucoup.
Dans le cadre de son partenariat avec RFI, Popourri Show est fier de vous présenter ça va le monde, un nouveau magazine qui vous fait découvrir des textes et des auteurs de théâtre vivant en Afrique, dans les Caraïbes ou au Proche-Orient, et écrivant français pour raconter un monde multilingue et pluriculturel. Chaque année, 6 textes sont lus en public au Festival d'Avignon et enregistrés pour diffusion en direct et en vidéo sur Facebook, puis sur les antennes de RFI. Ça va le monde, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec RFI.
Ça va le monde.
Non, ça va, ça va.
Ça va, ça va le monde.
Ça va le monde.
Ça va le monde.
Ça va.
Ça va le monde.
Ça va le monde.
Ça va le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture organisé en coproduction avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia, soutenue par la SACD et l'Institut français. Pascal Paradou.
Ça va le monde. Pour cette dernière lecture du cycle et du Festival d'Avignon, place à Jocelyn Danga, un jeune auteur de Kinshasa, devenu acteur le temps de cette mise en voix. Son texte raconte l'exil et se compose d'une série de lettres écrites par Molouki, un prof de philo, au fil de son voyage, à son frère resté au pays. Récit intime d'un déracinement, ne t'étonne pas si ma lettre sent le sel, est donc lu par l'auteur Jocelyn Danga avec les élèves de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, Elena Ekanda, Cyril Romero, Bastien Fourmi, Baptiste Hull et Martin Villemontex. Mise en scène, Armel Roussel.
Brazzaville, le 1er mars 2003. Cher petit frère, je t'écris cette lettre depuis le port à Brazzaville. Nous y avons accosté hier dans la nuit. J'ai dormi à la belle étoile comme un sans-abri. Je n'ai pas vraiment eu sommeil. Si j'ai fermé l'œil, ça n'a probablement pas duré 3 heures. 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, peut-être. Je pense beaucoup à vous, restez là-bas. Désormais, c'est sur toi que repose la charge de la famille, de nos parents vieillissants. Si tout se passe bien, tu n'auras pas à supporter ce poids. Mais tu sais, Jean, mon cher frère, ce que j'ai entrepris est un pari pour le moins hasardeux. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que papa et maman n'en sachent rien. S'ils te demandent où je suis parti, tu leur diras que je suis en voyage et que je reviendrai sous peu.
Wayo, 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 momo. Wayo, 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 baba. Wayo, wayo, wayo. Quelle destinée, manana.
Yaoundé, le 10 mars 2003. Cher petit frère, je t'écris depuis une gare routière à Yaoundé. Voilà 10 jours que je mène une vie de pigeon voyageur. J'ai fini par m'y faire. Enfin, je pense. Je ne sais pas. Parfois, je suis assailli par des doutes. La peur. Toujours. Ma routine immonde. Je me dis qu'opérer à un demi-tour, maintenant que j'en ai encore l'occasion, serait la plus sage décision à prendre. La nuit, je fais des cauchemars. Une nébuleuse s'invite dans mes sommeils de plus en plus courts et me brocarde jusqu'à la quatrième génération. Je me réveille en sueur, le cœur battant la chamade et la respiration hachée. Je regarde autour de moi, effaré. Les rues vides et noires des Yaoundé sont vides et noires. Besoin de lumière pour chasser mes mauvais rêves. Je traîne ma natte jusqu'au pied des lampadaires. Je me couche sur le dos et j'essaie de fermer les yeux. Là, je vous revois sous mes paupières. Un portrait dans mon esprit, blessante photographie. Le sourire de maman, le regard de papa, toi. Toi qui me dis au revoir alors que je monte à bord de la guimbarde à destination de l'ailleurs. Sans jamais savoir où et quand je te rêverai. Sans jamais savoir si vraiment je te reverrai un jour. Dois-je encore te dire à quel point je me sens perdu, petit frère? À quel point je me sens désarçonné, comme une feuille morte dans la tempête? Peut-être que tu le devines, toi, loin là-bas, quand tu penses à moi, quand tu fais face seul à l'anxiété de nos parents. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si j'entre dans ce désert, les dés seront jetés, mon sort scellé. L'issue ne tiendra dès lors que sur la force de l'espoir, peut-être. Je serais allé beaucoup trop loin pour rebrousser chemin, par lâcheté ou pour des raisons que, en ce moment, je ne semble pas encore soupçonner. Le corsaire m'a assuré que tout irait bien. C'est eux qui servent d'intermédiaire ici. Mais je ne peux pas m'empêcher d'appréhender l'incertain, tout comme je ne saurais me fier aux paroles d'un homme qui court éperdument après l'argent. L'argent. Mon avenir dans cette folle aventure. Aussi loin que remonte ma mémoire, nous ne sommes que deux à partager le secret de mon saut dans le vide. Pardonne-moi de t'avoir embarqué là-dedans. J'avais besoin d'une oreille à qui confier mes doutes et mes incendies intimes. Je n'ai pas trouvé mieux que toi pour m'aider à traîner ce fardeau de vie. Mon égoïsme me renvoie penaud. Je n'ai pas pris en compte le fait que tu n'es encore qu'un adolescent. Te voilà investi d'une charge à laquelle je me suis attelé à me dérober. Est-ce que tu finiras par lire ces lettres? Est-ce que je serai encore en vie si ce moment venait à advenir? L'avenir est cette nébuleuse qui me nargue dans mes songes. Si jamais un jour tu tombes sur ces notes, sache au moins à quel point ton frère a été un homme troublé et déchiré de l'intérieur pendant qu'il tentait l'audacieuse traversée. Embrasse nos parents 10 000 fois de ma part, Moloki.
Solitude 5.
Il est encore temps. C'est maintenant ou jamais.
Pas maintenant.
Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais.
Alors ce sera jamais.
Soit, soit, soit. Ainsi donc, tu prends la résolution de jouer ton propre corps au poker de l'existence. Qui penses-tu bluffer comme ça, jeune homme? Hein? Je vais te dire, moi, ce qui se passera si tu ne te ressaisis pas dans l'heure. Tu n'auras pas ce que tu cherches. Ce vent insaisissable, derrière lequel tu cours avec autant d'opiniâtreté, te filera entre les doigts. Tu seras seul dans ce vaste désert. Seul avec tes regrets, tes souvenirs, tes cauchemars. Tu moisiras dans la solitude jusqu'à la moelle épinière. Et quand tu auras épuisé la dernière réserve de cet espoir absurde qui te fait prendre la plus abjecte des décisions de ta vie, tu crèveras comme une bête sauvage, frappée par la peste. Je t'en donne ma parole de nébuleuse que je rapatrierai ton corps embaumé dans un emballage de cadeaux de Noël pour me consoler du désagrément que ton entêtement m'aura causé. Tes yeux exorbités ? J'en ferai des perles que je mettrai au poignet de mes 26 époux. Je fabriquerai avec tes dents une binette pour sarcler mon immense jardin. Tous les soirs, j'irai me saouler la gueule sur ta tombe en te rappelant dans les quatre langues de ma pisse que je t'aurai prévenu. Va donc, si tu oses.
Agadez, le 13 juin 2003.
Cher petit frère, comment te dire ? Je viens de passer les 3 mois à la fois les plus longs et les plus courts de mon existence. Depuis la dernière fois à Yaoundé, ma vie a pris un autre rythme, un tournant pour le moins singulier. J'ai couru sous le soleil, j'ai pleuré sous la pluie. Tu n'es pas obligé de connaître tous les détails de mon fastidieux périple. J'en viendrai donc à l'essentiel. Je vais bien, pour l'instant. Je suis entre les mains des passeurs, cloîtré dans une petite maison à Agadez, quelque part au Niger. Nous sommes si nombreux à attendre notre tour pour traverser le désert jusqu'en Libye que je ne compte plus les silhouettes. Je le faisais au début, mais j'ai arrêté. Des gens viennent et partent, pour mourir ou pour vivre. Chacun attend son tour dans l'entre-deux, comme un joueur sur le banc de touche, comme un coma conscient. Je ne sors pas beaucoup. Je ne mange pas beaucoup non plus. J'observe le monde à travers la fenêtre. J'attends avec patience et impatience le moment grave où l'entracte devra se finir et l'aventure se poursuivre. Tant qu'il y a encore de la vie, petit frère, je rêve et je marche vers mon rêve sans fléchir. J'ai eu raison de garder tes lettres, vois-tu ? Elles me rafraîchissent l'âme à chaque fois que je les relis. J'ai l'impression que tu m'encourages à poursuivre, que tu me prêtes tes ardeurs pour parfaire ma détermination. De ta tendre voix des jeunes garçons, je peux t'entendre me dire « Sois fort, Yaya, tu vas y arriver !» Yaya, grand frère. Et ma conviction se solidifie, décuple, malgré la longue attente. L'objectif au creux de la rétine.
Paris, le 22 décembre 2003.
Cher petit frère, je t'écris de ma petite chambre à Clignancourt dans le 18e. J'ai trouvé un appartement, T1, équipé d'un radiateur. Je suis à l'abri du froid à présent. Je travaille au noir au marché aux puces, non loin. J'ai introduit récemment une demande d'asile à l'Office de l'immigration et de l'intégration. Je patiente. Seul l'avenir fixera mon avenir. En attendant, j'ai fait la rencontre de Dieu merci, un Congolais vivant ici depuis des lustres. Il s'en va à Kinshasa fêter Noël avec les siens. Je lui ai filé l'adresse de la maison. Il va t'apporter toutes ces lettres que je t'ai écrites depuis Brazzaville. Je t'envoie aussi un mandat pour les festivités. Je ne sais pas si tu as bien rempli ta mission, mais maintenant que j'en suis là, tu peux tout avouer aux parents. Fais-leur savoir que je m'excuse de n'avoir pas eu le courage de leur dire que je partais prendre un risque absurde sur une décision pour le moins audacieuse. J'espère vous revoir un jour. J'espère les revoir un jour en vie. Embrasse-les 500 000 fois de ma part, ton frère Moulouki. PS, avec l'argent que je t'envoie, et essaye de t'acheter un téléphone portable, hein, Dieu merci te passera mon numéro, ok ?
Makanisi amboka malekingai. Makanisi amboka malekingai. Tokendeki ponakolu kabomoi. Mikolo nyonso seko ki mambango. Ha, toko maseko lela lela, ayo. Ha, etika liko zonga e. Ha, toko maseko bunga nzela. Ha, paninga, tusala keba e.
Ne t'étonne pas si ma lettre sent le sel de et avec Jocelyn Danga est donc le dernier texte à écouter dans ce cycle de lecture enregistré au Festival d'Avignon avec notamment les élèves de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle de Bruxelles. Merci donc au fond Marie-Paul Delvaux-Gauden et à toute l'équipe du Festival d'Avignon et du Musée Calvé qu'elle soit ici remerciée. Ça va le monde, coordination Pascal Paradou, réalisation Nicolas Benita, prise de son Alice Ménard, Victor Hull, régie générale Benjamin Avayou, diffusion vidéo, Romain Ferré et Dominique Fian. L'ensemble de ces lectures ainsi que celles des années précédentes sont à écouter sur le site de RFI.fr et sur l'application Pure Radio.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89.5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Ciné Franco en partenariat avec Popourri Show et CUTFM vous invite à participer en grand nombre à la 27e édition du Festival Grand Public du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton. Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, et son équipe nous promettent des chefs-d'œuvre du cinéma québécois, français et international. Du 1er au 10 novembre, tirage au sort des billets gratuits pour les membres de la radio. Pour y participer, c'est très simple, écrivez-nous à popourri@cut.fm. Alors on se donne rendez-vous du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton, Métro Collège. D'ici là, je vous invite à découvrir les films à l'affiche sur cinéfranco.com ou popourrishow.com. Bienvenue à la 27e édition du Festival Ciné Franco Grand Public du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton. Tirage au sort à des billets pour les membres de la radio. Et j'ai le plaisir de vous partager un de mes coups de cœur, Hôtel Silence, un film réalisé par la cinéaste Léa Poul. Une adaptation à la fois fidèle et personnelle du roman Or, une écrivaine islandaise. Léa Poul revisite ses thèmes de prédilection en suivant les pérégrinations d'un Québécois suicidaire dans un pays ravagé par la guerre. Rongé par le mal de vivre, Jean Les Tourneaux, joué par Sébastien Ricard, laisse derrière lui sa fille Cassandre, sa mère Louise et son ami Paul afin de se rendre dans un pays ravagé par la guerre pour y mettre fin à ses jours. À l'Hôtel Silence, tenu par Zoran, joué par Jules Poirier, et sa cousine Anna, mère du petit Adam, Jean exécute bientôt des petits travaux de rénovation. au contact de ses hôtes et des villageois, il retrouve peu à peu goût à la vie. Hôtel Silence de Léa Poule, retour aux sources. Film à l'affiche au Festival Ciné Franco, grand public du 1er au 10 novembre au Cinéma Carlton. Tirage au sort des billets pour les auditeurs et amis fidèles de la radio. Hôtel Silence a été présenté en avant-première à l'occasion de la 17e édition du Festival du film francophone d'Angoulême au mois de septembre. Voici un extrait d'un entretien exclusif adapté sur le, capté sur le vif. Mais tout d'abord, bonne annonce.
C'est mon fils, Jean. Il sait tout réparer.
Je vais pas bien, maman. J'ai plus le goût de rien.
C'est le compte au téléphone? C'est des ménages?
Non, 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 je fais juste trier des vieilles affaires. Le mieux, c'est que je parte.
Partir où?
Tu veux revenir chanter?
Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce pays?
Vacances.
Vous savez, on n'attendait pas de clients si tôt. L'hôtel était fermé pendant la guerre, on vient tout juste d'ouvrir.
On est tout seul à s'occuper de l'hôtel. Il y a tellement de choses à faire, à réparer. Adam, je peux pas le laisser tout seul, ni jouer dehors.
Get out! Les mines!
Oh non, ça lui rappelle un fusil.
Vous faites des travaux pour l'hôtel?
Je travaille pour personne.
C'est maintenant qu'il y a les plus belles occasions pour faire de l'argent.
Toute une génération d'hommes a disparu. S'il vous plaît, acceptez. Personne ne vient ici sans raison.
Je voulais juste arrêter d'avoir mal.
Tu vas rentrer chez toi.
À tout de suite. J'ai des choses à terminer.
Je suis attachée à ces gens, à leur courage, à leur volonté de vivre. Et toi, t'es qui? La seule façon de continuer, c'est de faire comme si on menait une vie normale.
Bonjour, je suis Léa Poule, la réalisatrice de Hôtel Silence. Ben, en gros, c'est l'histoire de Jean. Qui décide de partir pour un voyage sans retour dans un pays détruit par la guerre. Mais en fait, rien ne se passe exactement comme il l'avait supposé, parce que son désespoir lui semble bien dérisoire quand il rencontre ces gens-là qui l'accueillent, qui s'accrochent à la vie, au moindre espoir de reconstruction. Donc c'est beaucoup plus un film sur la reconstruction, sur la solidarité, que sur la défaite. Exactement, parce qu'il part en plus, bon, c'est une adaptation d'un roman de Odur Ólafsdóttir, qui est une autrice que j'aime beaucoup, islandaise. Et bon, d'abord, le titre Ör veut dire cicatrice. Donc, les cicatrices d'un homme et sa souffrance, comment est-ce qu'on mesure la souffrance, c'est toujours une question. Et qui est confronté à la souffrance d'un peuple qui vient de vivre la guerre. Et donc, c'est cette rencontre entre la souffrance de ces deux entités que se construit le film, parce qu'il part, lui, avec des outils, ce qui est un peu farfelu dans le roman, mais que je trouve extrêmement beau. Il part avec des outils, on ne sait pas trop si c'est pour aider ces gens-là ou pour se détruire lui-même, c'est-à-dire pour se pendre. Dans un lieu où sa fille ne le découvrirait pas. Et ce fait d'utiliser quelque chose qui était pour détruire, pour finir par reconstruire, évidemment reconstruire la vie de ces gens-là, en les aidant par du bricolage souvent, mais ils ont besoin de ça, parce que ces deux jeunes qui ont repris un hôtel, ils n'ont aucune connaissance de comment ça fonctionne, tout ça, et de se reconstruire lui-même avec ses propres outils. Non, j'avais déjà lu deux, trois de ses romans, dont Rosa Candida, qui a été quand même peut-être un de ses gros succès, en France en tout cas, et au Québec aussi. Et donc, j'aimais l'autrice, j'aimais son univers, qui était qui parlait de choses graves, mais avec toujours un peu d'humour ou d'absurde, et aussi en même temps avec énormément d'humanité. Et je pense que ça rejoint mes cordes sensibles. En plus, c'est les personnages féminins sont des personnages toujours très forts. Bon, le personnage d'Anna dans le film. Sur la solidarité, oui, traiter de choses graves, mais avec toujours... J'ai bien de la difficulté de faire un film où tout est du désespoir. On vit dans un monde déjà tellement difficile que je pense qu'on est aussi là pour essayer d'apporter un peu de lumière par notre travail comme cinéaste. Mais c'est chez vous, cher ami, c'est chez vous. C'est une drôle d'histoire. En fait, je veux tout de suite vous dire où c'est dans, à la frontière de l'Espagne et de la France, dans les Pyrénées, du côté de la Méditerranée. Ce qui est très étrange, c'est que j'ai cherché cet endroit pendant la Covid, donc je pouvais absolument pas voyager. Et de toute façon, on n'avait pas d'argent à ce moment-là. Donc, j'ai pris Google Maps et j'ai commencé à faire toutes les villes depuis la Grèce, en passant par la Turquie, en passant par la Grèce, en passant par l'Italie, et faire toutes les côtes. Et chaque fois qu'il y avait, je cherchais une petite ville, donc bourgade, petite ville, et après je tapais hôtel. Et j'ai fait comme ça, je suis passé beaucoup de temps à faire ça, pour finir par arriver sur la côte française, du sud de la France. Et là, tout d'un coup, je tape le nom de cet endroit. Et qu'est-ce que je vois? Un hôtel absolument hallucinant qui est bâti comme un paquebot en béton, qui est posé sur des rails, mais au bord de la mer. Fait que tout d'un coup, il y a comme une sorte de mélange. Il devient vraiment un personnage parce que bon, du béton, ça bouge pas beaucoup. Des rails, il y a déjà un peu la notion de voyage. Puis la mer, pour moi, il y a l'espoir, c'était un endroit absolument incroyable. Et bon, après, il a fallu négocier pour pouvoir tourner dans l'hôtel qui est un petit peu habité puisqu'il est en train de reconstruire un peu les intérieurs. Mais il y a un travail énorme à faire pour que ce soit vraiment viable. Oh, je l'aime depuis toujours. C'est un acteur que je trouve formidable, qui a une superbe intériorité, qui est généreux, qui est beau. Ça s'imposait pour moi qu'il avait le bon âge pour ce rôle-là. Ça a été un petit peu difficile pour lui. Bon, il a énormément aimé faire le film, mais c'est un gars qui est physique au théâtre. Il fait des choses extrêmement physiques. Et là, c'était tout en intériorité. Des fois, il avait besoin après de s'éclater ou d'aller nager, même si l'eau avait, on était là au mois de décembre, il allait nager, il allait faire de l'exercice. Parce que c'était quand même très demandant dans ce temps de silence. Il parle quasiment pas, hein. Il écoute. C'est un homme qui écoute. Qui est juste dans l'empathie. C'est pas facile à jouer, disons. Parce qu'il n'a pas le vocabulaire, il parle pas, quasiment pas. Alors, Lorena Hanschin, c'est une actrice suisse, du côté suisse-allemand. En fait, elle vient de Bâle, mais elle travaille au théâtre à Berlin. Elle parlait peu le français, on a travaillé son français et l'accent, parce que je voulais que ce soit un accent un peu indéfinissable. J'ai de la famille du côté de Zurich, donc je reconnais très très vite un accent suisse-allemand, et je voulais pas ça, évidemment. Et puis il y a Irène Jacob, qui est une actrice que j'aime de tout temps, que évidemment avec les films de Kieslowski, dans Rouge, et puis dans La double vie de Véronique, moi c'est deux de mes films préférés. Elle est extrêmement belle, elle est extrêmement douée. Bon, ça c'est vraiment, je suis contente qu'elle ait accepté parce que c'était pas un très grand rôle, mais je pense qu'il a sa place dans le film vraiment. Et elle joue une journaliste alors que dans le roman c'était une star de cinéma. Et je trouvais que ça s'adaptait mieux à l'histoire qu'elle soit journaliste, qu'elle ait comme aussi comme une voix, parce que c'est un film un peu choral, c'est comme les différentes visions de cette souffrance ou de cette de ce que la guerre peut créer aussi comme personne qui, bon, comme il y a le vilain aussi, celui qui profite de la guerre, elle c'est celle qui est la témoin de, qui est une témoin de la guerre. Voilà, c'est ça, c'est mes deux personnages féminins principaux, je dirais quand même. Après il y a sa fille ou personnage de genre, mais c'est des plus petits rôles. Oui et non, j'ai pas fait ce lien-là, mais il y a des autres liens qui sont peut-être plus profonds que ça, je dirais. Moi, c'est vrai que je suis parti de la Suisse à 25 ans avec l'idée de faire de la photo. Je savais pas trop, pour moi, le cinéma, c'était inaccessible. Pour remettre ça dans le contexte des années 70, là, il y avait pas beaucoup de femmes cinéastes, donc ça me paraissait, la photo me semblait plus adaptée à mes ambitions. Bon, puis par une suite de circonstances et des études en communication à l'Université du Québec, j'ai eu l'occasion de faire un premier film qui a eu un certain succès d'estime, et puis voilà. Mais ce qui peut-être a été révélateur pour moi, sans que je m'en rende compte, c'est que mon père, d'ailleurs le film est dédié à mon père, j'ai pas le nom de mon père d'ailleurs, j'ai le nom de ma mère, pour des raisons que vous allez comprendre, c'est que lui, c'est un juif polonais qui était à Berlin au début de la guerre, qui s'est enfui, qui est parti en Italie, et quand les Mussolini, ça a été devenu trop dangereux, il est parti dans le sud de la France, et quand c'est devenu trop dangereux dans le sud de la France, il est parti par les Pyrénées en passant par cette région-là, ce que j'ignorais en choisissant ce lieu-là. C'est comme ça m'a rattrapé par la suite. Et donc, aussi parce que j'ai rencontré des vieilles personnes qui habitaient là et qui me racontaient un peu l'histoire et des républicains qui fuyaient le franquisme, qui traversaient d'abord, puis de l'autre côté, tu avais un peu plus tard, mais dans la même période quand même, des juifs qui essayaient de fuir le nazisme. Et je trouvais que ce lieu portait aussi, pour finir, un peu une histoire encore une fois de souffrance, mais aussi un peu l'histoire de mon père. Voilà. Oui, ben je vous remercie infiniment pour cette offre de votre part. C'est, je pense, la troisième ou la quatrième fois, je pense, que je viens. En tout cas, avec la passion d'Augustine, avec Opirance Marira, puis peut-être avec Maman chez le coiffeur, mais je suis pas sûr. Enfin bref, oui. Oui, c'est un festival que j'aime beaucoup. Non, parce que j'ai réfléchi un petit peu, puis je me suis dit ce qui est quand même un peu dommage, en tout cas à Angoulême, mais c'est un peu la même chose à d'autres festivals qui touchent la francophonie, c'est que pour finir, ça se ramasse quand même beaucoup autour de la France, la Suisse, la Belgique. Ben là, je sais pas, j'ai pas votre programmation, mais j'ai quand même toujours un peu ce feeling-là que c'est quand même très francophone, européen, alors qu'il y a tellement d'autres pays d'Afrique, d'Asie, où je me suis posé la question, je me suis dit, quels sont les pays, au niveau de mon travail avec qui j'ai travaillé, avec quel pays j'ai travaillé en coproduction, parce que c'est quand même aussi partie d'un financement d'un film. Alors évidemment, il y a la Suisse par ma nationalité, il y a le Luxembourg, je fais d'ailleurs un film actuellement en coproduction avec le Luxembourg, il y a la France avec Ouécourt, et il y a actuellement aussi, je vais tourner au Maroc. Je vais tourner au Maroc à la fin de l'été, en septembre, parce que mon prochain film se situe dans 4 pays en fait, c'est-à-dire le Maroc, l'Iran, on va tourner au Maroc, le Québec et un peu le Luxembourg, mais plus pour des locations intérieures. Fait que c'est quand même un peu de francophonie dans le même projet.
Disons que la batterie roule.
Oui.
Le rideau se lève.
Bien.
Toi, tu vas te préparer par là.
Oui.
Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
Ah,
ah non, non, non.
Les radios francophones publiques présentent Charles Aznavour sur ma vie, une émission de Francis Legault
sur France Inter.
J'ai une part d'enfance, une grande part d'enfance. Je rêve toujours comme un enfant. Un adulte, ça bâtit, un enfant, ça rêve. On a toujours dit que je bâtissais quelque chose, en fait, j'ai toujours rêvé ce que je voulais faire. Je n'avais ni rêvé d'être une vedette, ni d'être un grand personnage. Je voulais être un numéro de spectacle et je voulais gagner ma vie dans le spectacle toute ma vie.
Le 7-9 est à Yerevan et depuis Paris, votre tube Anko Rebecca Manzoni est dédié à une chanson de Charles Aznavour. Rien dit Aznavour. Je me voyais déjà, c'est le tube Anko du jour.
C'est une chanson qui commence comme un lever de rideau, comme on ferait tadam. Et dans le monde du music hall, il faut des cuivres pour l'entrée d'un artiste. On imagine le gars faisant un tour de piste en agitant son chapeau. Mais après ces quelques secondes allègres et tonitruantes, Aznavour commence son récit avec une voix qui ne la ramène pas.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
Charles Aznavour est l'auteur de 49 chansons dont le titre commence par « Je ». C'est l'une des choses pour lesquelles je tiens une comptabilité absurde. « Je hais les dimanches »,« Je meurs de toi » ou encore « J'en déduis que je t'aime ». Parmi elles, « Je me voyais déjà » est l'une des plus autobiographiques. On est en 1960, ça fait 15 ans qu'Aznavour est dans le métier et il s'en est pris plein la poire. On l'a surnommé « L'enroué vers l'or ». On décrète son mètre 64 trop petit pour la scène et je vous passe les commentaires sur son nez. On est en 1960, Aznavour a 33 ans déjà et il confiera dans ses mémoires que pour imaginer le succès, il était champion du monde.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Si les paroles racontent son histoire, l'orchestration de ce morceau aussi, des cuivres pour l'amour du jazz, un goût pour les rythmiques de Baloche, lui qui a écumé les bals populaires adolescents, et les notes de xylophone, c'est la gaieté obligée, le sourire figé de l'artiste qui rame.
Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli, bien sûr.
Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. De l'art de transformer en poème la plus triviale des statistiques, 99% des gars qui se lancent dans la chanson le font pour emballer les filles. Aznavour dira...
La poésie de Brassens, ses chaussées d'escarpins, la mienne est une va-nu-pied.
Aznavour, c'est l'imparfait de l'indicatif plutôt que le passé simple. Des voyelles qu'il vire pour que les phrases aient du ressort, je me voyais déjà, et puis des R qui roulent. Parce que chanter, si tout a raté, c'est plus fort et plus violent que « Oui, j'ai vécu l'échec ».
Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Il faut l'imaginer sur la scène de l'Alhambra en 60, terminer cette chanson devant un public glacial, se dire en coulisses qu'il arrête tout, revenir sur scène pour saluer quand même, et les spectateurs debout lui faisant un triomphe. 16 ans plus tard, Aznavour est sur la scène de l'Olympia.
La chanson que je vais vous chanter maintenant, en fait, je ne devrais pas la chanter à ce moment de ma vie, mais comme c'est la chanson qui m'a tout apporté dans mon existence et dans mon métier, j'ai tout de même une sorte de tendresse particulière pour elle. La voici.
En concert, Aznavour change les paroles. Ce tout Paris qui me fait si peur deviendra ce tout Paris qui ne me fait plus peur.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
C'est donc l'histoire d'un fils d'Arménien dont les parents ont fui la tourmente au début du siècle dernier. Un fils d'Arménien devenu repère dans la chanson française.
Un fils d'Arménien arrivé hier soir à Yerevan pour les commémorations du centenaire du génocide. Charles Aznavour qu'on entendra un peu plus tard dans cette matinale spéciale. Merci beaucoup Rebecca Manzoni et à lundi pour un nouvel épisode de Pop & Co.
In Springfield... They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard.
Talk about extreme.
Hairball 2024, let's go!
Tonight, we're calling on people from across our great country who are fired up for Vice President Kamala Harris. After an electrifying Democratic National Convention, Kamala Harris raised record-breaking campaign donations, became a viral sensation, and then the world watched her step into her power and dominate that debate.
You're not running against Joe Biden, you're running against me.
In an unprecedented surge, grassroots coalitions have organized in lightning speed, creating a tidal wave of support.
Black women, were you in the meeting last night?
It all started the night Kamala Harris announced her candidacy. Advocacy group Win with Black Women, a collective of thousands of Black women leaders from around the country, founded by Jotaka Eady, hosted a Zoom call to support the campaign. Within hours, they raised $1.6 million and had so many people on the line, they almost broke Zoom, y'all.
I was on Zoom with 44,000 other Black women who were all focused on getting this woman to the White House.
Win with Black Women was the original spark that inspired over 100 other groups to organize their own Zooms for Kamala, like Win with Black Men, White Women Answer the Call, White Dudes for Harris, Jewish Women for Kamala.
Be the badass Jewesses that I know you all are.
Comics for Kamala.
She is the president America needs.
Swifties for Kamala.
First of all, I am a Swiftie.
Even cat ladies for Kamala.
Come on, cat ladies!
Tonight, for the first time, we are uniting all the groups together in one place with a single purpose. Elect Kamala Harris, President of the United States.
En pleine offensive médiatique, Kamala Harris ne ménage pas ses coups. Interrogée sur les grands dossiers de la campagne pendant l'émission 60 minutes, la candidate démocrate n'a pas hésité à attaquer son adversaire républicain.
Si Donald Trump était président, Poutine serait assis à Kiev en ce moment même. Il dit « Oh, je peux mettre fin à la guerre dès le premier jour ». Vous savez ce que c'est ? Une capitulation.
Même tonalité dimanche, invitée du podcast Caller Daddy, très populaire auprès des jeunes femmes, la vice-présidente a fustigé Donald Trump, qui l'avait accusé d'être en faveur de l'exécution de bébés au 8e ou 9e mois de grossesse.
C'est scandaleusement inexact et insultant que de faire croire que ça se passe, que des femmes font ça. Ça n'arrive nulle part. Cet homme est plein de mensonges.
This guy is full of lies.
Kamala Harris le sait. Sur l'avortement, sujet majeur dans cette campagne, la candidate démocrate est en position de force. Très dépendant de son électorat ultra-conservateur, l'ancien président, lui, évite soigneusement de prendre clairement position. Mais lorsqu'il s'agit d'attaquer sa rivale, Donald Trump n'est pas en reste. Dimanche, dans l'État-clé du Wisconsin, le candidat républicain a qualifié Kamala Harris d'incompétente, rendant la vice-présidente responsable de tous les maux.
Elle a ouvert notre frontière, détruit la classe moyenne. Et maintenant, alors que nos citoyens souffrent d'un ouragan catastrophique, je veux dire, cet ouragan Helene a été terrible. Kamala Harris les a laissés seuls. C'est la pire réponse à une tempête, une catastrophe ou un ouragan que nous ayons jamais vu.
Discours offensif aussi à Butler samedi dernier. Donald Trump était de retour dans cette ville où il a réchappé à une tentative d'assassinat le 13 juillet. Le candidat républicain a tenu un meeting survolté en présence du milliardaire Elon Musk, qui ne cesse de redoubler d'efforts pour envoyer Donald Trump à la Maison-Blanche. À moins d'un mois du scrutin, les sondages d'opinion donnent les deux candidats au coude à coude. Pour Donald Trump et Kamala Harris, la course finale est donc lancée pour tenter de convaincre chaque électeur.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la 5e saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. avec la soif d'apprendre, un membre du Crefo s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Crefo. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/crefo ou tout simplement popourichaud.com. Quoi de neuf, les cafés du Crefo. Une ouverture sur le monde. En voici un extrait du dernier épisode.
Dans cet épisode, Amal Madibo, membre du Crefo, rencontre Scott Tilton, cofondateur et co-directeur de la Fondation New en Nouvelle-Orléans.
Souvent, aux États-Unis, on parle de la fin de la des cultures francophones en Louisiane comme si ça a fini en 1803 avec la vente de la Louisiane. Mais en réalité, ces cultures francophones et créolophones se sont développées. C'était vraiment les langues parlées dans la rue, dans le commerce, dans la politique, tout au long du 19e siècle, début 20e siècle.
Bienvenue à Quoi de neuf?
Bonjour tout le monde, partout dans le monde. Ici Amal Madibo, à OISI, l'Université de Toronto. Et bienvenue donc au podcast de Crefo. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Scott Tilton, qui est le cofondateur et co-directeur de la Fondation New, qui se trouve donc à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. La Fondation New est une plateforme d'échange entre la Louisiane et le monde francophone. Monsieur Tilton est diplômé de l'Université de Virginie, donc aux États-Unis, en sciences politiques, et il est également titulaire d'une maîtrise en relations internationales de Sciences Po Paris. Il a vécu quelques années à Paris, et puis il était de retour en Louisiane. Monsieur Scott Tilton, merci beaucoup de nous joindre au podcast de Crefo. On aimerait vous souhaiter la bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup et merci pour cette invitation.
Oui, ça fait vraiment un plaisir. Donc, je viens de vous présenter brièvement. Est-ce que vous aimeriez ajouter donc des aspects que je ne veux pas mentionner donc au sujet de votre trajectoire de vie?
Oui, donc je suis issu de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. J'ai grandi ici. Après l'ouragan Katrina qui a frappé la ville en 2005, ma famille a déménagé dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment le cœur battant de cette ville, toute la belle culture de cette ville avec le jazz et vraiment et aussi entouré un peu par le chaos de Bourbon Street. Mais j'ai grandi dans cette ville. Je pense que un moment vraiment charnier dans ma vie, c'était l'ouragan Katrina en 2005. C'est après ce moment, cet ouragan qui a vraiment dévasté cette ville. Mais après ce moment en 2005, j'ai eu l'opportunité via mon père, qui sa famille en partie francophone, via mes voisins qui parlaient aussi le créole louisianais, de vraiment grandir dans un monde où il y avait plusieurs langues autour de moi. Et c'est plus tard quand je suis allé à l'université d'Virginie que je suis rendu compte à quel point c'était exceptionnel d'être au sein des États-Unis, entouré en par ces communautés francophones. Et même s'il n'y a pas en Louisiane tout le monde qui parle français, bien sûr, parce que c'est vraiment après 100 ans de déclin, malheureusement, en Louisiane, on garde cet attachement à la langue française et à la langue créole qui reste encore. Et j'ai vraiment la chance d'avoir eu cette connexion assez tôt dans ma vie. Effectivement, après l'Université de Virginie, je suis allé à Sciences Po, j'ai vécu quelques années à Paris et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Donc, c'est toute ma vie qui est bâtie sur la langue, sur cette modèle, sur la fondation.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays.
55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. De 11h à 13h, Potpourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Eh oui, Potpourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, potpourrishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé.
Bonjour tout le monde, moi c'est Michelle Filosca, entrepreneur, animatrice, porte-voix 23e édition, moi créole, KEPCA organisé sous thème créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Moi viens inviter nous dans le lancement Gros Rumble ça, qui va le dérouler mardi 1er octobre dans Centre Phi. Reine chanterelle soirée ça, c'est Abgaya Michel, une chanteuse qui t'est charmé jury émission La Voix dans TVA. Là, il y a 9 grands musiciens avec lui. Yo pral interpréter pour nous succès musical qui sorti dans groupe Tankou, Les Difficiles de Pétionville, Mono Charlemagne, Toto Bicente, Kassav, Bookman Experience, Mika Ben. Chanteuse Rebecca Jean, Akelev Lio, Aplatou. $50 avant 1er octobre, 60 dans pote. Rendez-vous mardi 1er octobre, 6h30 dans Centre-Phi, 315 rue Saint-Paul. Al réserve ticket nous dans pointdevente.com, info 514-750-8800.
Ouragan passé, poudou poudou crasé, même l'enjambé de l'eau, quel que soit côté lié, créole, c'est long.
Le KEPCA et CUTFM présentent Le créole est notre langue, protégeons-le. Depuis 2001, pour les 19 millions de personnes créolophones à travers le monde, octobre est le mois des célébrations publiques en l'honneur des langues et cultures créoles. Pour sa 23e édition, le KEPCA et ses partenaires, artistes, conteurs, auteurs, mettent en lumière le patrimoine créole à travers plusieurs activités favorisant la compréhension entre les peuples. Le créole est notre langue, protégeons-le. À travers une myriade d'activités, d'événements et de concerts captivants, le KEPCA et le mois créole à Montréal nous invitent à plonger dans un voyage inoubliable au cœur de la créolité. Découvrez la belle programmation du KEPCA en visitant moisducréole.ca. Et à tous les passionnés des cultures et langues créoles, Popourri Show et CUTFM vous donnent rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h. Parmi les thématiques, sommes-nous tous devenus créoles? Un décryptage à travers la parole d'historiens et de sociologues contemporains, d'anthropologues et d'artistes pour mettre en perspective les notions de créolité et de créolisation. Le créole est notre langue, protégeons-le avec le KEPCA sur moisducréole.ca. Sommes-nous tous devenus créoles? Sur CUT 89,5 FM en partenariat avec RFI France 24, TV5 Monde. Découvrez la belle programmation du mois du créole sur popourichaud.com. Le créole est notre langue, protégeons-le. Où que vous soyez dans le monde, toute l'équipe de la radio vous souhaite bon mois créole.
Sommes-nous tous devenus créoles? Épisode 2. Depuis quand la créolisation du monde a-t-elle commencé?
Valérie Beg.
Bonjour et bienvenue à vous. Le créole, ça vous parle? Une langue, une identité, une histoire et une géographie étonnante. Parce qu'évoquer le créole, c'est parler des Antilles, de la Guyane, mais aussi de chez moi, la Réunion, des Seychelles, de l'île Maurice. On en parle dans cette série en 6 épisodes qu'on a intitulé « Sommes-nous tous devenus créoles ?» Un titre volontairement un peu provoquant, parce que oui, la créolisation du monde est en marche. Et elle a une histoire qu'on va vous raconter dans ce deuxième épisode.
Glissant, dit bien, la créolisation, c'est pas un phénomène irénique, c'est pas un phénomène, c'est pas Benetton, quoi. On n'est pas en train de se dire, voilà, tout va bien, on va faire une société créolisée, une société de la relation. Non, il vous dit, la relation et la créolisation peut naître dans des circonstances qui sont des circonstances tragiques de l'histoire.
Depuis quand la créolisation du monde a-t-elle commencé? C'est la question que se pose Alice Milo avec l'aide de Jeanne Robet.
Sachez tout d'abord que le terme de créolisation fait son apparition à la fin du XIXe siècle dans le cadre d'une société savante, la Société française d'anthropologie. En 1884, elle accueille un voyageur, Paul Lévy, qui revient de la Caraïbe et des îles du Pacifique. Il raconte, devant une assemblée de savants, qu'il a observé dans ses territoires un processus à l'œuvre où les cultures s'adaptent à des phénomènes nouveaux. Et il propose qu'on parle de créolisation. Un concept qui n'a ensuite cessé d'être travaillé par des intellectuels, des chercheurs en sciences sociales, jusqu'à Édouard Glissant, romancier, poète et philosophe français né en Martinique et décédé en 2011, qui confère à la créolisation une portée plus large. Mais avant d'explorer cette question, je vous propose tout d'abord de revenir aux origines avec Loïc Séry, martiniquais, qui vit maintenant dans l'Hexagone et qui dirige le Centre international d'études Édouard Glissant au sein de l'Institut du Tout Monde, créé à Paris en 2006 par Édouard Glissant lui-même. Un espace pensé comme un levier, une manière de faire vivre la créolisation, mais aussi de mieux comprendre ses racines.
Déjà, Glissin insiste sur le fait que la créolisation désigne un processus qui est à l'œuvre dans l'histoire et qui s'est manifesté en particulier dans la Caraïbe. C'est une notion qui, chez lui, est connexe d'une autre notion très importante, c'est la relation. Et alors ça, sans rentrer dans des choses qui pourraient sembler compliquées, en fait, ce que Glissant dit, c'est que quelque chose d'inédit s'est passé dans l'histoire antillaise, dans l'histoire caribéenne, et qui est dû à la traite. Ce qui se passe avec la traite, dit-il, c'est qu'il y a une dissolution des identités qui se fait dès le bateau négrier. La volonté, c'est de faire perdre leur identité aux captifs. Et en effet, ils perdent cette identité. Ils vont garder simplement ce qu'il appelle des traces.
Et donc, ces populations qui arrivent dans ces bateaux négriers aux Antilles, on les appelle des Bossals hein, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, d'où viennent-ils précisément? Où est-ce qu'ils vivaient sur le continent africain?
La majorité des Antillais descendent de la région qu'on appelle aujourd'hui la Guinée, mais pas seulement. C'est très, très, très divers. Vous avez également des Igbos, plus tard vous aurez des gens du Congo, l'actuel Congo. Donc c'est très divers. Ce sont des gens parfois qui ne parlent pas du tout la même langue. Et qui, dans les navires négriers, déjà sont placés de telle sorte qu'ils ne communiquent pas entre eux. Donc ce sont des gens qui, en réalité, sont dans une dépersonnalisation qui est totale, dès le départ. Quand ils arrivent, en plus, à cette dépersonnalisation s'ajoute la perte du temps. C'est-à-dire que le temps qui était rythmé dans leur civilisation à eux, c'était de grandes civilisations africaines, hein, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, ce n'est plus leur temps, puisque c'est le temps servile, c'est le temps du maître. La journée, qui commence très tôt, est dévolue uniquement à la coupe de la canne, en l'occurrence, et puis au travail plus tard dans ce qu'on appelle les ateliers. Le seul temps qu'ils prennent sur le régime coercitif de la plantation, où il y a une sorte de couvre-feu, il faut le savoir, à partir de 18h, il y a un couvre-feu, il ne faut plus qu'on n'entende rien du tout. Eh bien, leur temps, ça va être la nuit.
Aïe, Étienne, Étienne, menez-moi à l'Étienne. Étienne, menez-moi le souhait, amassadou bagaille, mon vivant les moins.
Et c'est pour cela que, à partir de Glissant et de notre très grand poète guyanais et écrivain guyanais qui s'appelle Bertène Juminaire, on dit que ce sont des peuples de la parole de nuit. Donc, c'est clandestinement qu'ils vont créer les veillées de conte. À l'abri du regard du colon. Les séances de danse, c'est pareil. Ce qu'on appelle le damier en Martinique, ce sont des danses qui se font la nuit. Le tambour, le belay et le gros cas en Guadeloupe, ce sont des choses qui vont également se faire la nuit. Et c'est pour cela que, généralement, il y a un rapport particulier à la nuit dans ces populations-là. Vous voyez, jusqu'à présent, aux Antilles, on dit qu'il ne faut pas parler fort la nuit. Ce sont des choses qui se transmettent. Mais là, très 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 loin, très 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 loin. Il ne faut pas parler fort parce que, en fait, la nuit a des oreilles. Et ceux qui sont sur place vont accueillir des bossals qui n'arrêtent pas d'arriver. C'est-à-dire que les arrivages, comme on dit, de bois d'ébène, c'est constant. L'espérance de vie moyenne d'un esclave sur une plantation, c'est 28 ans. Ça vous dit un petit peu le régime auquel ces gens sont soumis. Donc il faut renouveler, si vous voulez, la main-d'œuvre constamment. Donc on accueille des gens qui ne savent pas parler créole, évidemment, qui parlent toujours leur langue, et qui apportent aux créoles des nouveautés syntaxiques. Quand vous dites manka ou manqué, vous êtes en train de parler de l'ewe et du fon, en l'occurrence. Donc en fait, vous parlez de l'africain sans même le savoir. Vous parlez d'une langue africaine sans même le savoir. La danse est un phénomène de créolisation, puisque le danseur sur la plantation, c'est le premier, avec le conteur. Eh bien, ce sont des gens qui sont dépositaires de traces africaines et qui reformulent quelque chose qui, en fait, était imprévu. Et c'est ça qui est important chez Glissant. La créolisation, dit-il, n'est pas le métissage. Le métissage est l'objet de quelque chose qui est prévisible. Vous mettez deux entités et vous savez qu'il y aura un mélange de ces deux entités. En fait, la créolisation, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est également autre chose. Vous ne savez pas sur quoi vous allez déboucher. Le créole, il n'était pas possible de le prévoir. Il n'était pas possible de prévoir non plus les modalités de résistance des esclaves. C'était totalement imprévisible. Et c'est ça la créolisation. C'est-à-dire que, comme ce sont des êtres qui sont en devenir, ils découvrent eux-mêmes ce qu'ils vont créer. Et ce qu'ils vont créer sont des exemples, justement, d'un processus nouveau qui s'appelle la créolisation.
Alors, la créolisation dont vous parlez là, elle s'opère entre les populations esclavagisées. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi créolisation entre elles et les colons qui, eux, viennent d'Europe et qui sont leurs maîtres?
Évidemment, glissant, il a un mot très, très violent, mais qui permet de comprendre tout de suite les choses. Au début, il n'y a pas de créole. Au début, la communication, c'est toi travaille, moi battre. C'est tout. Mais, comme vous me parliez de l'intercommunication éventuelle qu'il y a avec le maître, oui, elle va se faire. Et c'est ça qui s'appelle aussi la créolisation. La créolisation, c'est également un phénomène que les anthropologues connaissent aussi sous le terme d'acculturation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent avec leur culture. Les colons, ils arrivent avec leur culture française, mais ils vont perdre leur culture française. C'est-à-dire que ça va devenir des individus créoles aussi. Ils vont parler créole et ils vont pouvoir communiquer, en l'occurrence, avec les esclaves. Et entre eux, ils vont communiquer en créole. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils sont également touchés par ce phénomène. Ils sont englobés dans ce phénomène. En réalité, toutes les entités qui se retrouvent dans ce contexte colonial deviennent créoles. Il ne s'agit pas de vouloir faire une culture. Il s'agit d'un fait. Et c'est pour cela que le fait, il est là, il est massif. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les descendants lointains, mais parfois en droite ligne de ces colons, c'est-à-dire les béquets, eh bien, ils parlent créole. Ils sont des Martiniquais comme les autres, comme on disait. En l'occurrence, c'est une même culture dont il s'agit.
Et en revanche, pour les Bossals qui débarquent sur ces îles, est-ce qu'il y a de l'ordre de la survie? Est-ce que, pour eux, créoliser, c'est survivre?
C'est exactement ça. C'est d'abord ça. C'est un fait très violent. Étant donné que ce qui régit la loi sur la plantation, c'est le code noir. Vous savez que du jour au lendemain, étant donné que vous êtes la propriété de maître, c'est le maître qui dispose de votre vie. Vous pouvez la perdre, votre vie, de moment à l'autre. La vie ne tenait qu'à un fil. Et donc, vous êtes dans une précarité de tous les jours. Par conséquent, quand je dis création d'une culture, etc., c'est pas un loisir. C'est une création de survie. Et tout est de cet ordre-là. En termes de culture qui est appropriée quasiment comme une arme par les gens. C'est-à-dire une identité, le fait d'affirmer « nous sommes ça », nous parlons cette langue, nous dansons ainsi, nous jouons de la musique de cette façon, et de cette façon, nous pouvons résister. Donc, cela, ça s'est élaboré dans le temps. Mais si ça s'est élaboré dans le temps, c'est qu'il y a une pulsion, dès le départ, qui mène à cette élaboration-là. Et c'est cette pulsion que Glissant nomme créolisation et, en l'occurrence, modalité de la relation. Ce sont les modalités que les êtres humains ont d'habiter ces circonstances tragiques pour en faire autre chose, c'est-à-dire ce sont des phénomènes de résistance et de résilience. Le mot n'est pas du tout galvaudé, vraiment, ce sont des phénomènes de résilience puisqu'on construit quelque chose en ouverture au monde. C'est ce qui est le plus incroyable, jamais en claustration. Eh bien, c'est ça, la créolisation, et il ne faut pas l'oublier. À mon avis, il ne faut pas l'oublier quand on en parle aujourd'hui.
Mon ami, faut nous parler créole tous les jours, mais c'est pas un seul jour. Pour nous parler créole,
faut nous parler créole tous les jours.
Créole là c'est à nous, il y en dit dans nous.
Faut nous parler créole tous les jours.
Faut nous parler créole là tous les jours.
Faut nous parler créole tous les jours.
C'est langue maman nous, langue papa nous.
Faut nous parler créole.
Aujourd'hui, en effet, le terme de créolisation est employé par des personnalités politiques comme modèle de vivre ensemble. Cette bascule a été rendue possible grâce à l'œuvre d'Édouard Glissant, qui dans les années 80, avec son discours antillais et poétique de la relation, va élargir cette notion au reste du monde. Glissant dit alors que le monde se créolise. Pour mieux comprendre cette ouverture, nous avons rencontré à Fort-de-France Fred Constant, professeur en sciences politiques, qui a aussi été pendant 15 ans haut fonctionnaire dans différents ministères, mais aussi ambassadeur. Il nous raconte le contexte dans lequel émerge cette pensée du monde qui se créolise.
La créolisation, de ce point de vue, c'est un petit peu un autre récit, un récit alternatif de la globalisation, de la mondialisation, c'est-à-dire d'un mécanisme d'accélération des échanges, pas seulement économiques, pas seulement en termes des idées, pas seulement en termes des capitaux, mais surtout, j'ai presque envie de dire, souverainement en termes culturels et en termes de brassage des populations. Malgré tous les murs, toutes les barrières, toutes les frontières que certains pays et groupes de pays érigent pour limiter ce brassage des populations, eh bien, il y a ce processus irrépressible où les cultures se rencontrent, se frottent, s'influencent réciproquement, et se transforme. Hein. Il y a ce mot d'Edouard Glissant qui est souvent cité, « je me change en échangeant hein. ». Et je me change, ça ne veut pas dire que je m'aliène, puisque celui que je rencontre se change également. Hein, donc c'est un mouvement réciproque. Et donc c'est une vision finalement assez optimiste du monde, où on troque l'idée d'une humanité avec un grand H, qui est souvent adossée à une conception de l'universalité avec un grand U, avec une conception des humanités, la diversalité. Dès lors que vous mettez des groupes humains ou des individualités à rencontre les unes avec les autres, même si ça ne produit pas d'éclat, vous avez des situations de créolisation.
Et c'est pourquoi Edouard Glissant parle de tout monde, pour parler d'un nouvel espace qui résulte de la mise en contact des cultures entre elles. Fred Constant, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très contemporain pour illustrer comment dans une trajectoire de vie, la créolisation peut s'opérer?
L'un des romans qui m'a le plus marqué de la rentrée littéraire, c'est un texte d'Akira Miyabayashi, un écrivain japonais qui est publié chez Gallimard, et ce texte s'appelle « Suite inoubliable ». Voilà un écrivain de nationalité japonaise qui écrit en langue française, parce que dans sa généalogie familiale, il a rencontré cette langue et cette culture qui appartiennent aussi à ses parents. Et c'est un produit d'un couple franco-japonais, donc d'un métissage. Et voilà quelqu'un qui, tout en respectant des codes littéraires très européens, apporte quelque chose d'inattendu dans la manière d'écrire la langue qu'il a choisie pour ses œuvres romanesque, à savoir la langue française. Ça, c'est un exemple, quand même, un éclat littéraire, parce que c'est quand même une prouesse remarquable. Et vous voyez, ça, c'est pour prendre des exemples, des références un peu intellectuelles. Mais je suis certain que dans la vie de tous les jours, vous avez des histoires pareilles. C'est pas parce qu'elles sont pas consignées dans des ouvrages que lisent, entre guillemets, les savants ou les cultivés, que ça n'a pas valeur. Ça a valeur. Il y a des histoires de vie remarquables. D'ailleurs, Glissant a eu cette formule, la créolisation, c'est pas une vérité, c'est du vivant. Et c'est pour ça aussi qu'on peut légitimement apporter des bémols à cette vision qui est une vision généreuse de notre avenir, qui, si on lit bien Glissant, malgré les difficultés contemporaines, pourrait être un avenir radieux. Si on débarrassait la rencontre des rapports de force qui souvent rythment ces rencontres, on arriverait à avoir cet avenir à Dieu. Moi, alors c'est vrai que c'était une déformation disciplinaire, puisque je suis un professeur de sciences politiques. La science politique traque les relations de pouvoir, les rapports de force, où qu'ils se trouvent, y compris dans les idées les plus généreuses. Et je vois dans l'espace international, de toutes parts, surgir des obstacles à l'application et même à la pertinence de la magnifique théorie que Glissant nous a laissée. Nous développons des trésors d'imagination pour empêcher que la circulation des hommes et des femmes sur la planète soit le plus libre que possible.
Et ces barrières, est-ce qu'elles sont efficaces ? Ou est-ce que la créolisation, finalement, persiste et signe malgré ses freins?
Oui, moi je pense que ce processus, il est inéluctable, parce qu'en permanence, il se joue des barrières que les hommes essaient d'ériger pour l'empêcher d'advenir. Mais même dans les camps dans lesquels on retient les migrants pour les empêcher d'atteindre, par exemple, l'Europe, il y a des processus de créolisation à l'œuvre. Il y a même, sur le plan des histoires individuelles, des rencontres, des couples qui se forment, des vies qui changent, des hybridations qui se forment. Et c'est ça l'avenir. Moi, je trouve que c'est une belle métaphore de l'avenir. Mais ça ne se fait pas aussi facilement qu'Edouard Glissant le laisse penser parfois. Parce qu'il y a des résistances toute l'histoire des discriminations, de la xénophobie, du racisme, qui préviennent les rencontres entre les cultures de se faire, qui les conditionnent, qui les formatent, qui les paramètrent pour réduire, si vous voulez, le frottement entre les cultures. Ça, c'est un élément très fort qui ralentit, de mon point de vue, le processus de créolisation.
Loïc Séry, directeur du Centre international d'études Édouard Glissant, au sein de l'Institut du Tout-Monde.
L'un des textes les plus marquants pour moi dans l'histoire de la mémoire de l'esclavage, c'est Redemption Song de Bob Marley. Et quand Bob Marley dit dans son texte « Emancipate yourself from mental slavery », ben, en fait, c'est ce que Glissant montre. Hein. Le tout monde, c'est le fait de s'émanciper de l'esclavage mental. Et, en fait, quel est notre esclavage aujourd'hui? Si on veut faire encore des échos, non pas des analogies terme à terme, mais des échos. Notre esclavage aujourd'hui, c'est celui des claustrations nationalistes et communautaristes. Si on a le tout monde en tête, on peut s'émanciper de ce nouvel esclavage de l'esprit, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut avoir une interculturalité de personne à personne. Il a même dit Glissant, même en respectant l'opacité de l'autre. Il ne faut pas croire que l'autre va mettre tout de suite clair. Il ne faut même pas viser la clarté. Il faut épouser son opacité. Si on a ça en tête, si on réussit à changer, comme il disait, changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Si on fait ça en ayant le tout monde en tête, ça nous permet de sortir de toutes les ornières d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les nationalismes sont déjoués, le racisme est déjoué, les communautarismes auxquels on ne veut pas être suffisamment attentif sont déjoués. La créolisation et la relation, ça implique qu'on ait toujours un dialogue avec l'autre. Toujours. Quand on rompt ce dialogue-là, on n'est plus dans les conditions de la créolisation. Sauf que Glissant, il a bien dit que la créolisation, ça se fait avec des heurts. C'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des arrêts, des régressions, des avancées. Regardez ce qui s'est fait en Afrique du Sud. C'est un processus inarrêtable, mais ce n'est pas un processus linéaire. Voilà. C'est un processus qui peut avoir des interruptions, qui peut avoir des régressions, mais en l'occurrence, l'essentiel, c'est de garder en tête que c'est un mouvement qui se fait. Si on a cela en tête, je crois qu'en effet, on peut mieux accepter le terme avec son poids historique et savoir qu'il peut nous être utile aujourd'hui, mais en s'éloignant des facilités.
Dans le prochain épisode, qui est vraiment créole dans le monde actuel ? Nous verrons comment l'identité créole s'est forgée comme une revendication et comment cette idée s'exporte aujourd'hui au-delà des sociétés d'outre-mer. À bientôt !
Sommes-nous tous devenus créoles est une série de France Télévisions Outre-mer La Première, produite par Wave Audio, un épisode signé Alice Milo avec Jeanne Robet. Réalisation de François-Charles Domergue.
Direction éditoriale d'Outre-mer La Première, Fabrice Auchard et Jean-Marc Parti.
Et pour ne rien manquer des épisodes de la série, rendez-vous sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé moins. Moi j'en bais de l'eau, la nati changé, même pas billet langue moins. Non danger, coup dans l'amour, c'est créole qui pointait. Mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé moins. La nati changé, même pas oublié langue moins. C'est la vie, c'est qu'il t'y lié, c'est racine la caille. Pas gain tant coup créole. Créole, c'est langue nous, pas quitter la mer. Et ça, même si bagaille a changé. Quitter l'allée, ouragan passé, coudou coudou crasé, même l'enjambé de l'eau, quel que soit côté nié, créole, c'est long, nous pas perdre palais. mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé moins. Moi j'en bais de l'eau, la nati changé, pas plié langue moins. C'est fietaine, c'est langue pays, racine la gaille, pas qu'un temps pour créole, non, créole. Changer, pas quitter l'allée, non, non, non. Ouragan passé, coudou, coudou, crasé. Même l'enjambé de l'eau, quel que soit côté nié. Créole, c'est l'un nous. On pas fait parler, nous pas fait parler. N'a construit canal, non. Pour l'un nous qu'a joué nos routes. Et l'esprit timonio pour des mecs améliorés. Ah, et créole, c'est l'homme, non. Pas quitter l'allée, pas quitter l'allée, même si bagaille ont changé. Ah, pas quitter l'allée, pas quitter l'allée. Ouragan passé, coudou, coudou, crasé, même les jambes de l'eau, quel que soit côté nié, créole.
Si les Maurice nous là,
la Réunion est là.
Michel, c'est nous.
Nous parlons.
Guyane, les autres là.
Nous parlons.
Guadeloupe, les autres là.
Nous parlons.
C'est ici.
Thomas.
La Grenade.
Trinidad.
Cuba. La Louisiane.
La Dominique.
Haïti chérie.
Réal, c'est l'ONU. L'ONU, l'ONU. Réal, c'est l'ONU.
Vous êtes Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM. Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Qu'aime nous, où était ma calculé, j'en ai eu passé, avant badge, c'est vrai, 20 ans gain temps coulé, tant qu'on éclate en cours, premier fort d'amour, t'es qu'un en pile projet, en pile rêve qui périvant, pour t'es au aller, et quand y'a sans monter, si l'aimerait t'aime, vinoué, tout l'espoir m'enterrait tant. Couri cou la pluie, cap descend yon mon déboisé. Hier matin, ça pas trop loin. T'as gagoté la vie, sans pas même réfléchir. Dans toi parler en pile, by temps pour grand merci. M'bat penser la jeunesse, t'as pralé sans tourner. J'suis ta ma boue plaisir, sans pas j'en mésiré. Et même l'aime tomber, des carrés commencer. Mais qu'on y en voit l'avenir, puis coûte qu'elle est passée. M'bat compte pour combien jours, en vent l'ennui tomber. Qu'un des jours, m'senti qu'elle lourd. L'aime compter toutes en mime, qui guette en jambé. L'aime penser à son mime, qui fine des graines. Ça fait me réaliser, t'allais qu'on ça c'est tout pam tout. Tant pas besoin qu'on ait, si ou pop, si ou gagne l'argent, même si ou table qu'un bel, gagnons cette direction. Si y'a pas qu'un pitié, non, quand même la vie nous brige, ou mettre sauter pompé, quand mon nom a entré.
au passé. On vend pas de jeu, c'est vrai. 20 ans qu'un temps coulé, tant qu'on éclate en cours. Premier foire d'amour, tant pas besoin qu'on ait. Si ou pop, si ou gré l'argent, même si ou table est qu'un bel, gagnons cette direction. C'est pas qu'un pitié, quand même la vie de brige, ou mettre sauter pour le voler comme mon nom a entré. Mais avant d'aller, petit temps sacré t'aimé, célébrer la vie, tout autant qu'à camper, m'vlé, partager l'histoire pour ne pas oublier d'exister.
Avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. C'est Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
La fête a lancé le 1er octobre par le Kepka se poursuit avec un florilège d'activités haut en couleur. Et ce dimanche 13 octobre, ne manquez pas la foire du livre. Au Musée des Mémoires montréalaises, une belle occasion pour découvrir des auteurs et des livres inspirants venus du Québec, de la Caraïbe et de l'océan Indien. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de littérature qui souhaitent plonger dans la richesse de nos cultures créoles à travers les mots. Et le 18 octobre, nos partenaires au Kepka vous invitent à participer en grand nombre à un atelier sur l'écriture de poésie créole avec des experts. Une occasion unique de découvrir et pratiquer l'art du poème créole. Le 17 octobre, projection du film sur Jean-Jacques Dessalines, suivi d'un débat sur son héritage, entrée gratuite. Retrouvez tous les détails et informations additionnelles sur la page Facebook, / Moi Créole Montréal, ou encore moiducréole.ca, ou tout simplement popourichaud.com. Le créole est notre langue, protégeons-le.
Ça y est qui pas bon, c'est 28 après ça. Ça y est qui pas bon, c'est 28 après. Satisfait de tout, ça bon Dieu Kamado. Nous qu'on avec nous et toujours plus de plus. Pas jamais ni assez, nous pas que les boudins pleins. Où fait ça? Mieux dit malheureux, pas jamais ni bon Dieu. Et chaque chupine est fait pour nous aussi, bon Dieu. La cour a dit rien, à tous ces trois enfants, qu'à Dieu, il veut taper, on y va!
Ça y est,
pas
bon.
On y va.
Ça y est, qui va bon.
Attention. Le meilleur. Vas-y, Bibi. On continue. C'est ça, y est, qui va bon. Attention.
Soyez bienvenus pour vous. Dans le morceau qui suit, on a besoin de vous. Donc, quand je dirai le mot de merci en position, quand je dirai en position, vous allez vous mettre comme ça. Je n'ai pas encore dit en position. Attention. Donc, en position, vous levez les mains. Non, attends. Vous frappez les mains, vous sautez et vous criez. Attention. Tout le monde sans exception, en position. Vous frappez les mains, vous sautez. Et vous criez, c'est parti, balance la zone.
Ça le fait mal, compagnon. Vous sentez là, vous sentez pas affectif. Mais ici, c'est du fou, vous bien mêler. Si vous comprenez comme ça, vous m'avez tombé. Pas de la parisienne, pas que les matins géants.
Bonjour,
yeah.
Ça m'appelle
Lula.
Attention. Tout le monde en haut, en bas. En position, c'est ma vie. Monsieur Jean-Claude Lemoy avec vous. Bien belle la main, s'il vous plaît. Bien belle la main.